Bleu Pays de Savoie. La vie en bleu, Sylvia Depierre.
L'invité de la vie en bleu de ce jeudi 8 octobre, c'est Odile Augier. Odile Augier est une maman de 6 enfants. Elle habite Menton-Saint-Bernard et elle vient d'écrire un livre aux éditions Jacques-André dont elle vient nous parler cet après-midi. Livre qui s'intitule 10 sur 10, le parcours de mon enfant dyslexique. Ce livre n'est pas seulement le parcours de son enfant, c'est aussi l'histoire de l'accompagnement, de l'investissement d'une maman qui maintenant est même devenue consultante en dyslexie. Elle intervient dans les écoles, elle aide les parents. Odile Augier vient nous raconter ce chemin parfois douloureux, semé d'obstacles, d'incompréhension, de culpabilité, d'incertitude dans lequel beaucoup de parents vont sans doute se reconnaître. On estime qu'il y a en France entre 6 et 8% d'enfants dyslexiques, mais c'est aussi un message d'espoir puisque Paul, son fils, est actuellement en seconde pro nature au lycée professionnel Poisy-Chavanneau. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez intervenir dans cette émission, vous pouvez le faire. Le numéro de la ligne bleue, c'est le 0820 20 1992. Si vous aussi, vous êtes touché de près ou de loin par la dyslexie, si vous avez des questions à poser ou des témoignages à nous apporter, vous pouvez le faire et vous repartirez avec le livre d'Odile Augier. Odile Augier, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être venue nous voir.
Merci de m'accueillir.
Comment vous le définissez, votre livre? Vous me disiez tout à l'heure, Orantène, c'est aussi une page que je tourne, ce livre.
Exactement, c'est une page que je tourne, c'est un chapitre fini sur l'accompagnement de mon fils dyslexique, puisque maintenant c'est un grand jeune homme de 16 ans, qui est devenu bien autonome, qui a ses outils propres à sa différence, adaptés pour lui. Et il est bien dans sa peau et c'est tout ce que je souhaitais.
Oui, mais c'est ce qu'on souhaite à tous les enfants dyslexiques. On va voir que c'est pas facile de faire reconnaître la dyslexie, car elle est souvent méconnue par les gens. Il y a eu pas mal d'idées reçues aussi sur les enfants qui souffraient de dyslexie. Pendant très longtemps, on fera un peu la chasse aux idées reçues aussi, aux dialogues dans cette émission. Pendant très longtemps, on a juste considéré les enfants dyslexiques comme des enfants qui étaient bêtes, incultes.
Tout à fait, bêtes et feignants. Et ces enfants-là devenus grands que l'on rencontrait souvent dans le village, on disait tiens, ça c'est le débile du village ou le simple du village qui pédalait sur son vélo. Et c'était un peu l'image qu'on se donnait de ces enfants qui évidemment devenaient des futurs illettrés, adultes illettrés. Et je dirais quand même que ça perdure encore.
C'est vrai.
Il y a quand même de plus en plus d'informations dans les collèges, le milieu enseignant, donc les professeurs sont de plus en plus concernés par la dyslexie et prennent en effet en charge ces enfants-là.
Mais encore pas mal de boulot.
Il reste encore beaucoup d'idées reçues et oui, on traite encore ces enfants de feignants.
Eh bien, on va avoir l'occasion de parler de la dyslexie jusqu'à 15h. Si vous voulez nous rejoindre, 0820 20 1992.
Vu d'ici, on découvre le monde. France Bleu Pays de Savoie.
Odile Augier, notre invitée cet après-midi, elle est venue nous parler du livre qu'elle a écrit, 10 sur 10, le parcours de mon enfant dyslexique. L'enfant dyslexique pardon, en question, c'est Paul. Odile, c'est sur les 6, c'est l'avant-dernier.
Voilà, c'est le numéro 5.
Le numéro 5. Comment vous avez entendu parler pour la première fois de la dyslexie? Comment c'est arrivé dans votre vie, dans votre histoire?
J'ai entendu en fait fort tard parler de la dyslexie puisque Paul était âgé de 7 ans et demi, 8 ans lorsqu'il a eu par un bilan neuropsychologique, il a eu donc cette étiquette de dyslexie puisque c'est toute une batterie de tests faits par une neuropsychologue qui ont permis de mettre à jour cette dyslexie et enfin, de l'orienter vers une prise en charge par plusieurs professionnels de la rééducation du langage.
Ça veut dire que jusqu'à 7 ans et demi, vous en tant que maman, vous aviez perçu qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, qu'il n'était pas comme les autres,
tout
entre guillemets, mais sans mettre de nom dessus.
Voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre, la progression de toutes mes interrogations et de toute l'incompréhension qui existait autour de moi. Paul avait des difficultés dans son développement de langage, il avait aussi des difficultés psychomotrices, il avait un retard par exemple pour apprendre à faire du vélo, il n'arrivait pas à faire son lacet, il a été propre assez tard, et toutes ces difficultés réunies faisaient que mon enfant, j'avais du mal à comprendre pourquoi il ne progressait pas. Les enseignants, les institutrices, surtout en maternelle, me disaient « ça va venir », mais ça ne venait pas. Et ensuite, en CP, la maîtresse aussi me disait « mais vous faites beaucoup trop de soucis, ça va venir, mais ça ne venait pas ».
Et comment ça se manifestait, les troubles de l'apprentissage de la lecture, notamment en CP, puisque c'est la classe où on apprend à lire?
Je dirais vraiment ce qui saute aux yeux, d'abord, c'est la fatigue de l'enfant à l'école, sa lenteur, son dégoût pour l'école. Il n'a pas envie d'aller à l'école. Il rentre de l'école, il est fatigué. Il met une heure et demie pour apprendre un ou deux sons, pour lire une phrase qu'on lui donne en CP. Et ça, tout de suite, ça nous amène quand même à consulter au moins le médecin généraliste, éventuellement, si l'institutrice nous le demande, à faire un bilan chez l'orthophoniste. Et là, en effet, on a détecté des troubles du langage oral, mais on ne parlait pas encore de dyslexie. Paul a commencé d'ailleurs sa rééducation orthophonique à l'âge de 3 ans, dès la première année de rentrée donc de maternelle, puisqu'il avait quand même une dysphasie, c'est-à-dire un gros trouble du langage.
Alors, qu'est-ce que c'est la dyslexie? C'est quoi la définition de la dyslexie, pour bien qu'on comprenne de quoi on parle?
Alors, je vais vous donner une définition qui est donnée par l'APEDIS, l'Association des parents d'enfants dyslexiques. C'est une des définitions. La dyslexie fait partie des troubles spécifiques du développement du langage et se définit généralement comme une difficulté durable dans l'apprentissage de la lecture et d'acquisition de son automatisme chez des enfants intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et de troubles psychologiques préexistants. Ce qui veut dire que, d'avance, on sait que les enfants dyslexiques ne présentent pas, par exemple, de surdité, de troubles psychiatriques. Ce sont, je dirais, des parasites qui viennent empêcher un bon diagnostic de la dyslexie. Par contre, ça n'empêche pas qu'un enfant dyslexique développe des troubles psychologiques dus au, je dirais, à sa dyslexie qui est mal vécue. Mmh. Il se peut aussi qu'un enfant qui a une mauvaise audition dès le départ, je le dis dans mon livre, entre autres, par exemple, les otites séreuses, qui font baisser énormément l'audition, oui, chez un enfant, font qu'il va mal entendre les sons et mal apprendre à lire. Donc, il va développer une dyslexie. Mais la dyslexie, avant tout, c'est un trouble neurologique et c'est depuis la naissance.
C'est-à-dire qu'il y a un facteur génétique à cette maladie. On a même parfois des familles de dyslexiques.
Oui, on peut parler d'hérédité, en effet.
Ouais. C'est souvent les garçons qui sont touchés.
Alors oui, c'est les garçons. Là, je ne peux pas l'expliquer. Je m'en remets aux scientifiques. Par contre, une petite explication tout à fait abordable. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu et je sais que pourquoi c'est héréditaire. Parce qu'il y a des zones de développement du cerveau qui concernent les zones de développement du langage qui, d'une génération sur l'autre, sont touchés par un petit dysfonctionnement au départ lorsque le fœtus est encore dans le ventre de sa mère.
Alors, la dyslexie, on a entendu sa définition, il faut donc qu'il y ait un retard de lecture, donc il faut qu'il y ait quand même un certain laps de temps avant de pouvoir la diagnostiquer, cette dyslexie. Pour autant, comment ça se manifeste? On vous parlait tout à l'heure de fatigue d'un enfant qui ne veut pas aller à l'école, mais concrètement, il se passe quoi pour lui? Il n'arrive pas à apprendre les sons?
La dyslexie est vraiment caractérisée par des troubles phonologiques, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à distinguer les phonèmes, c'est-à-dire les sons qui sont dans notre langue. Grosse confusion. Donc confusion, bien sûr, à l'écoute, mais confusion aussi à la lecture. Donc ça engendre évidemment un handicap à l'apprentissage de la lecture.
On va continuer à parler de cette dyslexie. Si vous qui nous écoutez, vous êtes touché par le sujet, si vous-même vous êtes dyslexique, si vos enfants le sont, si vous voulez nous raconter un petit peu comment ça se passe pour lui ou comment ça s'est passé pour vous il y a quelques années, vous pouvez nous joindre, d'autant que nous vous offrirons le livre d'Odile Augier, 10 sur 10 pour nous joindre. C'est le 0820 20 1992.
Jusqu'à 17h, la vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie.
Odile Augier, notre invitée cet après-midi, nous parlons de la dyslexie. Elle a écrit un livre, un témoignage très poignant sur la dyslexie, 10 sur 10, le parcours de mon enfant dyslexique. Odile Augier, on va rappeler une fois de plus, hein, parce qu'on fait aussi de la chasse aux idées reçues, que ce n'est pas une maladie la dyslexie, hein, mais bien un trouble d'apprentissage.
Tout à fait, trouble de l'apprentissage, acquisition, donc lecture-écriture, qui se détecte au moins après 18 mois de retard. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on le détecte finalement lorsque l'enfant est en CE2, ce qui est déjà bien trop tard pour l'enfant et pour les parents.
Alors on n'en guérit pas, on reste dyslexique toute sa vie?
C'est un handicap, oui, à la naissance on est dyslexique, on meurt dyslexique. Alors, ça ne se guérit pas, mais ça se soigne, ça se compense. Et on arrive à trouver les outils pour rendre l'enfant autonome, avec sa différence. Et je dirais que j'espère bientôt qu'on ne parlera plus que de différence et non pas de handicap.
Et quels sont les outils, justement, qui peuvent les aider? Quelles sont les personnes qui peuvent les accompagner au cours de leur scolarité, ces enfants-là, pour que, justement, ils ne se mettent pas en échec?
Alors, il y a d'abord les enseignants, bien sûr, qui peuvent détecter la dyslexie, ou en tout cas, les difficultés de l'enfant. Il y a surtout les professionnels et auxiliaires médicaux, ceux qui font des tests comme par exemple les neuropsychologues, les psychomotriciens, les orthoptistes, les ergothérapeutes.
Qui permettent de poser le diagnostic.
Posent un diagnostic et ensuite toute une structure d'aide et d'accompagnement en rééducation.
Et l'orthophoniste?
L'orthophoniste, je dirais que c'est l'élément principal dans la rééducation d'un enfant dyslexique.
Et puis en tant que parent, on peut aussi aider un enfant dyslexique?
Oui, on peut aider.
C'est ce que vous avez fait, ce que vous faites.
Tout à fait, en mettant en place justement un partenariat entre les professionnels de rééducation, les enseignants et l'enfant. N'oublions pas qu'il est acteur dans sa rééducation et son accompagnement.
Et concrètement, vous en tant que maman, le soir, vous avez trouvé des pistes pour l'aider concrètement dans ses difficultés?
Oui, c'est à force. Bon, d'abord, j'ai eu la chance d'assister aux séances de rééducation en orthophonie de mon fils, qui n'est pas toujours le cas, d'avoir accès à tous les documents que l'orthophoniste donnait à mon fils, et donc de m'imprégner de l'approche linguistique de sa méthode d'orthophonie et de tous les trucs et astuces, je dirais avec support de gestion mentale, qu'elle appliquait à mon enfant. Donc à la maison, je reprenais ces petits trucs et astuces.
Vous avez fait le relais.
Et puis j'en ai développé d'autres par mes lectures et mes recherches, entre autres sur Internet, qui est un merveilleux outil d'information.
Alors on va accueillir, si vous le voulez bien, Odile Séverine, qui elle habite Montmélian et qui nous appelle également pour un témoignage. Bonjour. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Nous vous écoutons Séverine.
J'ai mon fils Hugo qui est dyslexique, donc sa dyslexie a été détectée l'année dernière. Donc actuellement il est en CE2, là il a commencé début septembre. Et la maîtresse l'année dernière était assez psychologue, elle arrivait à le comprendre, à l'aider, mais cette année ça semble plus difficile. La maîtresse actuelle, déjà avant qu'elle l'ait, elle avait déjà un regard négatif sur lui. Elle disait qu'il était mieux à la récréation qu'en classe. Donc, je me fais un petit peu de soucis et je voudrais savoir en fait comment on peut faire dans ce cas-là.
Ouais. Ça, c'est quelque chose auquel vous avez été confrontée aussi, Odile, c'est l'incompréhension. Par méconnaissance, la plupart du temps, du corps enseignant?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une méconnaissance, un manque d'information et non pas une mauvaise volonté. Je pense que la plupart des enseignants ont quand même envie que tout se passe bien, mais ils n'ont pas les outils d'accompagnement des enfants dyslexiques. Et cette dame souligne vraiment justement la difficulté que nous, parents, avons lorsque l'enfant change de classe et que chaque année, il faut renouveler notre information, notre relation avec l'enseignant.
Est-ce que Séverine, vous êtes allée voir l'enseignante en question? Est-ce que vous lui avez parlé de votre fils, etc., de la dyslexie?
Oui, elle était déjà au courant parce qu'on avait fait déjà des réunions avec la maîtresse de l'an passé. Elle était présente. Donc, elle sait ce qu'il en est, mais elle persiste dans son opinion sur mon enfant.
Et puis, si on lui met une étiquette dessus, de feignant ou autre...
Voilà. C'est difficile. Mais est-ce que vous avez demandé à établir ce qu'on appelle un projet d'intégration pour votre enfant?
Non.
Alors les projets d'intégration, il se fait, c'est une sorte de contrat entre les enseignants, les parents, l'enfant, pour mettre en place des aides pédagogiques.
Comme quoi?
Comme par exemple lui donner les cours copiés, lui donner un tiers-temps, ne pas lui faire faire tous les exercices, lui donner moins de devoirs, peut-être faire des contrôles en quiz ou en contrôle oral plutôt que de le faire comme les enfants, ne pas noter l'orthographe sauf dans les dictées. Il y a tout un panel de moyens mis en place et le projet d'intégration, il se demande auprès des enseignants référents et normalement dans chaque secteur, chaque diocèse si on est dans le privé ou chaque secteur académique si on est dans le public, mettent en place des enseignants référents, c'est assez nouveau depuis quelques années, et ce sont ces enseignants référents qui font le tampon, qui sont acteurs donc de ces projets, qui vont voir les instituteurs, les enseignants, qui convoquent les parents et qui mettent en place, suivant les difficultés de l'enfant, tout un panel d'aide en classe.
Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, Séverine. Essayez de vous renseigner. Sans doute que le directeur d'établissement peut lui donner le nom de l'enseignant référent.
Oui, tout à fait. Hein. Je crois qu'il faut qu'elle s'adresse au directeur.
Essayez d'aller plus loin, sans doute.
De l'enseignant.
Ouais.
Oui,
parce que ce serait dommage de mal démarrer l'année tout de suite. Et vous, Séverine, vous aviez déjà entendu parler de dyslexie avant le diagnostic de votre fils ou pas?
Oui, j'en avais déjà entendu parler, mais bon, c'est vrai que tant qu'on n'est pas touché de près...
Concrètement, Séverine, quelles sont les difficultés que rencontre Hugo?
Ben, des difficultés d'attention et des difficultés pour apprendre les mots, en général.
Il met du temps pour apprendre?
Et il a beau les voir des dizaines et des dizaines de fois, il n'arrive pas à les réécrire correctement. Donc là, il est suivi par une orthophoniste qui va lui donner des astuces justement pour connaître l'orthographe des mots. Donc on verra ce que ça donne.
Bon, ben on vous souhaite bon courage, Séverine. En tout cas, ne baissez pas les bras et restez toujours près de votre fiston le soir pour lui filer un coup de main. On sait que c'est parfois long et fastidieux. Hein. Je pense que Odile, vous avez passé un certain nombre d'heures près de Paul le soir. À vous dire, mais comment c'est possible de ne pas y arriver?
Oui, tout à fait.
Il ne faut pas se démotiver.
Des moments de grand découragement, surtout que j'étais incomprise par les enseignants, puisqu'on me prenait pour une maman finalement très perfectionniste, et que ça n'allait pas si mal que ça. Pourquoi je me faisais autant de soucis?
Écoutez, Séverine, on va vous offrir le livre d'Odile Augier. Vous allez relire, vous allez lire ce témoignage et sans doute que vous allez vous retrouver un peu dans l'histoire d'Odile et de son fils. Et il y a plein de pistes, il y a plein d'informations intéressantes pour encore mieux aider votre fiston. D'accord, Séverine ?
D'accord, merci beaucoup.
On vous l'envoie, merci beaucoup.
Au revoir.
On va aussi aborder dans quelques minutes, si vous le voulez bien, Odile, les différentes dyslexies, parce qu'il y a différents degrés de dyslexie. Il y a la dysorthographie, la dyscalculie. Donc, sans rentrer trop dans le détail, on va quand même expliquer que tous les dyslexiques ne sont pas au même niveau. Et puis, je vous rappelle la possibilité que vous avez de poser une question à Odile ou d'apporter votre témoignage 0820 20 1992.
France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
10 sur 10, 10 DYS, le parcours de mon enfant dyslexique, c'est le nom de l'ouvrage d'Odile Augier. Odile Augier qui est notre invitée cet après-midi. Alors s'il y a une seule dyslexie, Odile Augier, par contre elle se manifeste de différentes manières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans rentrer trop dans le détail, parce que j'imagine qu'après ça peut devenir très vite pointu, mais en tout cas quels sont les différents troubles?
Oui, alors il y a une dyslexie, mais des enfants dyslexiques, c'est-à-dire que chaque dyslexie est différente. D'une part, par ses troubles corollaires, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a plusieurs dyscalculie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie. Et puis aussi, chaque dyslexie est différente de par son histoire, par exemple l'histoire familiale, sa prise en charge, les bilans pluridisciplinaires, les soins, les structures d'accueil ne sont pas les mêmes.
Donc c'est vraiment au cas par cas, finalement.
C'est au cas par cas. Et puis aussi, chaque dyslexie est différente de par le vécu de cette différence. Il y a chaque personnalité étant différente, chaque cellule familiale le voit différemment. Est-ce qu'on accepte de voir son enfant handicapé par sa dyslexie? Est-ce que l'enfant accepte sa différence? Il y a des enfants qui ne veulent pas en entendre parler non plus. Donc tout ça est difficile à conjuguer.
Et pour revenir sur les différents 10, alors on parle souvent de la dysorthographie, hein, qui est cette
alors,
difficulté quand on fait
beaucoup de
fautes.
Celle qui se rattache le plus à la dyslexie et qui vraiment va de pair avec la dyslexie, c'est la dysorthographie, bien entendu, la difficulté donc d'acquisition de l'orthographe. Et puis, il y a aussi souvent la dyspraxie, c'est les troubles du geste et de la coordination motrice, donc caractérisés par une maladresse. Soit dit au passage, les enfants dyslexiques ont souvent une mauvaise gestion de l'espace-temps. Et ça se retrouve donc dans les difficultés de ces enfants dyspraxiques. Il y a aussi la dysgraphie, puisque l'enfant est maladroit, il a du mal à gérer son espace-temps. Donc il y a des troubles de la coordination et de la motricité fine. C'est en cela que l'on reconnaît que l'enfant est dysgraphique quand il a du mal à tenir son crayon et avoir une écriture, je dirais, à peu près coordonnée. Et puis, souvent aussi à l'origine de ces troubles de développement du langage oral, c'est la dysphasie, c'est-à-dire un trouble durable de l'acquisition de la parole et du langage. Mais un enfant dyslexique n'est pas obligatoirement dyspraxique, dysgraphique.
Oui, il n'a pas forcément tous les 10. Hein. Oui. Dyscalculie, c'est les chiffres. Hein,
voilà, c'est le rapport aux maths, c'est les troubles de l'apprentissage des mathématiques, des opérations de calcul et compréhension mathématique.
Mais fort heureusement, on n'a pas forcément toute la liste des 10 chez le même enfant.
Non, sinon on parle en effet de dyslexie sévère si tout se conjugue et fait que l'enfant a vraiment du mal dans tous ses apprentissages, ce qui était le cas de mon fils.
On va accueillir Marie-Paul qui est à Artemare et qui veut nous apporter également son témoignage sur ce thème de la dyslexie. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour. Donc je voulais amener
donner un témoignage parce que mon fils qui a 14 ans est dyslexique. Il a été reconnu à l'âge de 7 ans. Donc on est tombé sur des professeurs qui acceptaient sa dyslexie et d'autres pas du tout. Et pourtant, tous les ans, nous signons un projet d'intégration. Et il y a 15 jours, déjà en arrière, là, je suis tombée sur un professeur qui punissait Pierre, parce qu'effectivement, Pierre est dyslexique, donc avec une dyslexie sévère. Et il oublie, il est maladroit, voilà. Mais c'est un enfant qui est très, très agréable. Et il revenait avec des punitions. Et au bout de tant de punitions, on se retrouve collé le samedi matin au collège. Et ça ne sert absolument à rien. Au contraire, à l'époque où il est à 14 ans à l'adolescence, ça ne fait qu'empirer au niveau de son caractère. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce professeur. Et ce professeur m'a dit, je raisonne en tant que professeur et pas en tant que médecin scolaire. Donc vous pouvez signer autant de projets d'intégration, je n'en tiendrai pas compte. Donc j'ai appelé le professeur référent qui s'occupe de Pierre. Oui. Et effectivement, ce professeur référent m'a dit, vous tomberez, madame, sur des professeurs qui ne voudront pas entendre parler de l'handicap de l'enfant, que ce soit une dyslexie ou autre handicap. C'est comme ça et on n'y peut rien.
C'est malheureux d'entendre ça quand même en 2009.
Oui, je pense qu'on y peut quelque chose. C'est-à-dire, je conseille déjà à cette dame de
Oui, c'est vraiment un combat, Marie-Paul.
Oui, de rassembler toutes les difficultés de son enfant, de les répertorier, et puis de faire un courrier, bien entendu, avec copie, à tous les professionnels de rééducation qu'elle connaît, à l'enseignant référent, au directeur d'établissement et à l'inspecteur académique. Il faut faire bouger les choses.
Mais vous avez
écrit, Marie-Paul, est-ce que vous avez écrit jusqu'à l'inspecteur d'académie?
Alors, le professeur référent m'a proposé justement qu'il y ait même une inspection. Le problème,
c'est
que
faites-le.
Quand il va y avoir une inspection, tout va bien se passer.
Mais c'est pas grave, faites le courrier quand même.
J'ai bougé beaucoup les choses. Et quand on se retrouve avec le directeur du collège et l'enseignant en faute, ah mais tout va bien. Entre la parole d'un professeur et la parole d'un parent, d'après vous, on écoute qui? Voilà.
Vous vous retrouvez un petit peu dans ce témoignage, Odile, parce que quand on lit votre livre, on voit que c'est un vrai combat, quoi. Hein, c'est un combat.
C'est un combat. Moi, en primaire, je suis tombée sur une institutrice qui m'a dit que j'avais un enfant débile.
Oui, moi aussi, on me l'a dit. Hein. Paul n'est pas intelligent, c'est un gros feignant, il n'écoute pas. J'ai tout entendu. Je pense en effet que d'inspecter l'enseignant ne servirait à rien. Mais par contre, de répertorier avec des documents et des preuves écrites tout ce qui ne va pas et de le faire remonter haut, très haut, inspection académique, voire plus, les médecins scolaires, la MDPH, là, ça peut faire quelque chose. Et puis, je dirais aussi que vous avez un grand rôle à jouer dans la prise en charge de votre enfant en ce qui concerne son organisation à l'école. Vous me dites, il oublie beaucoup de choses. Ça, c'est le trait caractéristique de ces enfants-là, qui, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, sont souvent atteints de TDAH, c'est-à-dire trouble déficit attentionnel, avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire que le trouble déficit attentionnel, comme son nom l'indique, c'est des troubles de l'attention, il est suffisamment important pour être détecté TDAH. Eh bien, ces enfants-là, il faut les structurer plus que les autres.
C'est-à-dire qu'il faut être plus derrière.
Exactement. Alors, on commence par leur faire des listes. C'est-à-dire que des listes, mais pour tout, par exemple, tu vas à l'école ce matin. As-tu préparé tes chaussures? T'es-tu lavé les dents? As-tu préparé ton agenda? N'as-tu pas oublié ton manteau, ton sac? Et il coche.
Ce qui fait
qu'on instaure des automatismes. Et un beau jour, on s'aperçoit que ces enfants n'ont plus besoin de listes. Des listes, j'en scotchais partout dans la maison. Jusqu'à ce que Paul s'habitue à se prendre en charge.
Mais Odile, d'ici la fin de l'émission, nous donnera également d'autres petites astuces très concrètes qu'on peut appliquer en tant que parent, qu'on va pouvoir faire travailler, qu'on va pouvoir appliquer avec notre enfant dyslexique. Marie-Paul, on va vous envoyer le livre d'Odile Augier. Hors antenne, éventuellement, on peut vous donner les coordonnées d'Odile si vous voulez qu'elle vous aide concrètement. Il y a un site également internet. Odile, donnez-nous le site, mais on aura l'occasion de le redonner.
Alors c'est bon, http://www.discoaching.com, je vais l'épeler, 10 DYS, tiret au milieu, Discoaching, CoaChing.com.
Discoaching.com. On vous donne bien sûr toutes les coordonnées hors antenne si vous le souhaitez. Marie-Paul, on vous envoie le livre et puis vous pourrez reprendre contact avec Odile si vous voulez discuter plus longuement avec elle et qu'elle puisse vous aider dans votre combat quotidien. Bonne chance, Marie-Paul.
Merci.
14h-17h. La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre.
Odile Augier, notre invitée, elle a écrit un livre, un véritable combat sur le parcours de son enfant, 10 sur 10, le parcours de mon enfant dyslexique. C'est l'occasion de parler de la dyslexie, parce que même si on a dit que les choses avaient bougé, on voit avec tous les témoignages qu'on a depuis le début de cette émission, et qui ne sont que quelques exemples, Odile, qui a encore effectivement beaucoup, beaucoup de boulot à faire, et du côté du corps enseignant. Ils sont formés, les instituteurs, les maîtres, les professeurs, à reconnaître ce type de trouble ?
Alors,
a priori, non.
Je dirais oui, mais je n'en vois pas les effets. Il m'a été dit que dans le programme de l'UFM, qui est en passe de disparaître, je crois, d'être remplacé par une autre filière d'enseignement, il est dit que les futurs instituteurs et enseignants, professeurs d'école, on les appelle comme ça maintenant, ont un module sur la dyslexie. Mais je pense qu'il doit être très court et peut-être pas complet.
Et il y en a peut-être qu'on séchait ce jour-là.
Voilà.
On va revenir aussi sur des petits conseils très pratiques de maman d'enfant dyslexique que vous êtes, Odile, avec l'expérience que vous avez, puisque maintenant votre fils a quel âge d'ailleurs maintenant 15...
Il a 16 ans depuis 15 jours.
Il a 16 ans depuis 15 jours, Paul. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à toutes les mamans, à tous les papas qui nous écoutent et qui ont des enfants dyslexiques ? Des exemples très concrets. On a dit tout à l'heure les listes déjà, pour
oui,
pas qu'ils
voilà,
oublient.
En fait, de façon générale et dans la mesure du possible par rapport à l'emploi du temps surcharger des parents, surtout
aussi,
quand ils travaillent tous les deux. Ça, je dois avouer, c'est quand même difficile. Mais de manière générale, avoir plus que jamais une rigueur, une discipline éducative. C'est-à-dire un rituel quotidien. On mange à telle heure, on prend sa douche à telle heure, on met son sac d'école à tel endroit, on pose ses lunettes à tel endroit, on se douche par exemple toujours avant le repas, on fait les devoirs tout de suite après le goûter. Parce que, au même titre qu'un sportif qui vient de faire du sport, qui s'arrête 5 minutes pour boire, reprend tout de suite le sport pour ne pas refroidir ses muscles, eh bien il est reconnu que ces enfants-là, je dirais entre guillemets pour ne pas refroidir leur cerveau, eh bien ils rentrent de l'école, ils goûtent et ils se remettent au devoir tout de suite.
Dans la mesure
on ne
du
va
possible.
Pas jouer, on ne regarde pas la télé, on ne fait pas de l'ordinateur. Parce que le cerveau, eh bien je dirais qu'il se refroidit et les enfants sont beaucoup moins efficaces et beaucoup moins motivés.
Et sur la durée des devoirs, parce qu'on le sait, ils sont un peu plus lents, ils ont un peu plus de difficultés, est-ce que c'est sans fin ou est-ce qu'à un moment donné il faut mettre des limites aussi, des limites dans le temps.
Alors si vraiment ils sont trop longs, on peut peut-être essayer de négocier avec l'instituteur. Je parle de ça en primaire. En collège, c'est plus difficile parce qu'il y a plusieurs professeurs, mais aller voir peut-être le professeur au moins de français, puisque c'est la matière la plus lourde pour ces enfants-là. Mais je dirais aussi s'organiser dans les devoirs, c'est-à-dire bon, trouver un endroit calme, leur éviter l'aller-retour entre le livre et le cahier ou la copie. Puisque ces enfants qui ont souvent des troubles attentionnels ont des troubles visuo-attentionnels. Ils ont du mal à diriger leur regard. Donc il faut leur faciliter, leur mettre l'information, par exemple, la question, juste à l'endroit où ils vont mettre la réponse. Ne pas faire d'aller-venu entre le livre et la copie. Recopier la consigne.
Ouais,
s'il faut, leur photocopier l'exercice de maths qui est sur le livre, page 79, numéro 2, perdu au milieu de 20 exercices de maths, eh bien, il faut soit lui recopier, soit lui photocopier, et lui coller ou lui recopier dans son cahier, de façon à ce qu'il ait toujours l'exercice à côté. Et puis, beaucoup, beaucoup lui servir de lecteur-scripteur. Éviter la copie au maximum. C'est des enfants qui se fatiguent énormément à l'écriture.
L'usage de l'ordinateur aussi est parfois préconisé.
Alors, oui, c'est-à-dire, moi je sers de secrétaire à mon fils à l'ordinateur. Ce qui fait qu'il a...
Ils arrivent mieux à lire
même.
Une écriture.
Ils arrivent mieux à lire et surtout, j'explique tout ça dans mon livre, je choisis la police Comic Sans MS sur ordinateur. C'est une police qui offre des jambages et des hauts de lettres beaucoup plus visibles. Et en taille 14, c'est-à-dire une grosse écriture. Et ne pas hésiter, là on ne parlera pas d'économie de papier, ne pas hésiter à aérer le travail. C'est la grosse difficulté dans les ouvrages maintenant scolaires. Tout est confiné, serré, les exercices. Et l'enfant se fatigue énormément à aller retrouver chaque fois son information.
Vous me disiez également, ne pas écrire en lettres majuscules.
Oui, faites l'essai vous-même, prenez un texte tout en majuscules. Vous verrez, les lettres ont la même hauteur. Elles sont moins écartées et elles se ressemblent. Un W et un M majuscule, par exemple, c'est la même chose. La lettre O et la lettre Q sont à peine distinguables en majuscule.
Oui, donc forcément, c'est plus dur à lire.
Voilà.
On va accueillir Christian qui est à Annecy, qui lui a 40 ans, qui est dyslexique. Bonjour Christian.
Bonjour.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans la description du dyslexique qu'on a pu donner depuis le début de cette émission ?
Bah oui, c'est-à-dire que depuis 2 heures, je voyage dans ma vie, là, c'est assez sympathique. Il y a des mélanges d'émotions, de tristesse dans ce que j'entends, puisque j'ai vécu ça dans les années 70, 80, et puis encore maintenant. Mais surtout en tant qu'élève, à l'époque, en années 70, 80, c'était une tare. Hein. Moi, j'étais taré. Quoi.
Et on ne parlait pas de dyslexie à l'époque, hein ?
Non, c'était un attardé mental. Donc, en plus, à la maison, c'est-à-dire que j'étais réellement suivi parce qu'il y avait des problèmes, que j'ai ramené moi-même d'ailleurs, parce qu'à la limite, en étant en échec scolaire, donc on parlait bien d'échec scolaire, ils s'en sont aperçus en. Je n'ai pas le souvenir, mais ça doit être à peu près ça, hein, CM1, CM2, quand les livres commencent à être un peu plus serrés en lecture, quand on saute d'acheter un titre à un autre, on ne comprenait plus rien à ce que je disais, parce que j'arrivais pas à finir ma phrase, je rattaquais 3 couplets en dessous. Bon, c'était tout et n'importe quoi. Donc,
et vous avez réussi, vous avez continué vos études, vous avez fait quoi, Christian ?
J'ai eu un diplôme, j'ai eu avec succès. Hein. Est-ce qu'il y a à le dire ?
Oui.
Un succès, un CAP. À l'époque, mon père m'avait toujours dit « Tu as un CAP, t'as de quoi te mettre à ton compte ?» Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un CAP et puis je me suis dit « Voilà, avec ça, je peux aller dans la vie. » Je l'ai eu avec un tellement bon résultat qu'à la limite, d'autres écoles se sont ouvertes à moi, mais j'en ai été tellement dégoûté que moi, ce que je voulais, c'était travailler.
Ouais, c'est ça, c'est le dégoût de l'école, hein, après, hein, clairement.
Oui, j'ai énormément souffert. Je crois que vraiment la chose la plus grave dont j'ai souffert, c'était l'isolement, se sentir tout seul, en fait. Le radiateur et moi, au fond de la classe, c'était bien. En été, c'était pas super, mais j'étais au fond, donc j'étais un poids pour l'école. En plus, j'étais plus grand que les autres, j'étais super bon au sport. Je rebondis sur plein de choses que j'ai entendues tout à l'heure.
Allez-y, Christian.
Si vous voulez, en sport, j'étais le meilleur. En plus, j'étais un peu leader parce que j'étais un peu plus grand, donc on faisait vite confiance. Malgré que j'avais des échecs scolaires, je parlais un peu fort. Enfin, j'essayais de...
Vous compensiez.
Je compensais en permanence. Ce qui a fait de moi une personne très extravertie par la suite, de façon positive maintenant, parce que je dirais qu'on a une forme de maturité qui nous permet de canaliser ça. Mais on parlait tout à l'heure de 14, 15, 16 ans, j'étais un bon délinquant, quoi. Donc, quand je dis un bon délinquant, c'est-à-dire j'étais capable de faire des trucs énormes pour qu'on me remarque, jusqu'à ce que ça soit vraiment des délits. Donc, je pense que j'ai eu une bonne étoile qui m'a fait rester sur un bon fil. Sinon, j'aurais pu basculer. Pour rassurer les parents, puisque c'est du vécu, je m'en suis sorti grâce au sport. Parce que, en fait, j'étais bon dans ce que je faisais dans le sport et j'ai retrouvé une place de meneur. Et j'ai pu m'exprimer par rapport à ça, et ça a été très important.
Ouais. Je crois que c'est important qu'il développe une passion. Votre fils, Odile, vous, c'est l'équitation, et ça a été une vraie révélation aussi, hein, l'amour du cheval. En plus, bon, là, il y a le rapport avec l'animal. Mais c'est important qu'il trouve quelque chose d'autre, puisque l'école n'est pas leur...
Oui.
C'est pas l'endroit où ils se sentent le mieux. Qu'il trouve quelque chose d'autre dans lequel ils s'épanouissent.
Oui, et oui, ils peuvent réussir, comme dit...
Et, voilà. Et c'est le cas de Christian qui a réussi. Christian, je peux me permettre de vous demander si vous avez des enfants ?
Oui, bien sûr, j'ai ma fille qui est dyslexique.
D'accord.
C'était sur ma fille. Donc là,
elle a quel âge ?
Elle a 12 ans.
Et vous l'avez diagnostiquée très tôt ? Vous vous êtes reconnue très tôt ?
Ah oui.
Ouais.
Énorme complicité avec ma fille. Donc, j'ai malheureusement pas toujours eu les bonnes réactions non plus, parce qu'on a un rapport avec son enfant qui est un peu le problème, dans l'éducation nationale, où on veut en faire l'élite. C'était mon premier enfant, et je me suis dit, elle sera la meilleure parce que je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Donc, j'ai mis une pression inutile. Et c'est ma femme qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit, ne fais pas les mêmes bêtises qu'on a fait avec toi. Et à partir de là, j'ai créé une complicité. Donc, j'entendais tout à l'heure Odile parler de communication, de partenariat. Et, moi, j'ai établi réellement, pour aller plus loin dans le mot, une connexion avec ma fille. Je suis capable d'anticiper sur ce qui va se passer, parce qu'elle est gaffeuse au possible. On essaye de pas trop racheter d'assiettes dans le mois, mais bon, elle est gaffeuse. Elle oublie des choses importantes. Donc, j'essaie d'anticiper. Et puis, effectivement...
Et puis, vous êtes bien placé pour la comprendre. Hein.
pas complètement.
Évidemment. Christian, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. On voit bien les difficultés que vous avez traversées et que malheureusement certains traversent encore à notre époque. Et voilà, c'est bien de le redire. C'est bien aussi de terminer par quelque chose de positif et de voir qu'on peut s'en sortir aussi. C'est aussi le but de votre livre, Odile. On voit que c'est beaucoup de galères, mais au final, c'est aussi beaucoup de réussite dans le cas de votre fils et vous-même, puisque vous, maintenant, vous vous investissez à fond. Vous êtes consultante en dyslexie. On va revenir sur votre actualité dans quelques minutes. Christian, on vous offre le livre d'Odile Augier. On vous l'offre. Vous pourrez le faire lire également à votre fille parce que, en tant que dyslexique, c'est rassurant, moi, je trouve, de donner ça à quelqu'un qui souffre de dyslexie. C'est rassurant de voir que finalement tout va bien, qu'on a juste un trouble, tout va bien entre guillemets. C'est-à-dire que tout va bien, qu'on est différent, mais qu'on est intelligent comme les autres et qu'on peut faire de belles choses dans la vie.
Oui, tout à fait, on peut s'en servir.
Merci Christian.
Merci.
On vous envoie le livre. Au revoir.
Merci, au revoir.
La dyslexie cet après-midi avec notre invité Odile Augier, auteur du livre 10 sur 10, le parcours de mon enfant dyslexique. Il est édité chez Jacques André, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui sont intéressés, il est distribué partout, à la FNAC, il n'y a pas de souci, vous pouvez le commander, il coûte seulement 13 euros, je le signale quand même. Et puis il y a le site internet d'Odile Augier qui est très bien fait, où il y a aussi des bons conseils. Odile qui maintenant aide... Vous aidez même des parents d'enfants dyslexiques qui seraient un petit peu dans la galère. Vous
oui.
pouvez intervenir auprès d'eux.
J'ai mis en
vos
place
services.
Un cycle de formation parentale suivant les demandes des parents. Soit formation en orthopédagogie toute matière pour les aider à s'organiser et à prendre en charge la scolarité de leur enfant, donc le soir en tout cas, en ce qui concerne les devoirs. Et puis aussi orthopédagogie en anglais.
Oui, parce qu'avec vous êtes professeur de langue, d'anglais, et vous aidez justement les enfants dyslexiques à apprendre l'anglais.
Voilà,
parce que c'est pas facile
pour
eux non plus.
Je ne l'ai pas dit au début, la dyslexie est une affaire de langue, c'est-à-dire de transcription phonème-graphème, puisque il faut, en italien il n'y a pas du tout de dyslexie, puisqu'ils écrivent ce qu'ils entendent.
Et c'est plus simple.
À l'extrême, l'anglais est une langue extrêmement phonologique, difficile, dite langue opaque, puisqu'il y a 1120 possibilités d'écrire les 40 sons que l'on entend.
Ça veut dire qu'il y a plus de dyslexie qu'en Angleterre.
Il y a à peu près 20% d'enfants dyslexiques anglais. Il n'y en a pas du tout en Italie. Et les Français, il y en a invariablement entre 6 et 8, voire 10%. Mais quand les Italiens apprennent l'anglais, là, on découvre des dyslexiques. Le pire, c'est les enfants bilingues anglais qui viennent habiter en France et qui sont dyslexiques.
Sur les deux langues.
D'accord.
Odile Augier, je vous remercie beaucoup d'être venue nous parler de ce sujet. J'espère que ce sera bien l'occasion, une fois de plus, de faire la chasse aux idées reçues et de communiquer sur ce trouble d'apprentissage qui est la dyslexie. Si on veut vos coordonnées, le deuxième bouquin en plus va être super intéressant. Il sortira bientôt, j'espère, parce que là, vous donnez vraiment des exemples concrets pour aider les parents. Donc si on veut vos coordonnées, on peut joindre la ligne bleue. On vous explique tout ça hors antenne.